Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes mercredi 8 février. Bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, vous dire d'abord que c'est une pas pire de journée. On a 3 degrés comme maximum, généralement nuageux. Et les températures vont demeurer stables comme ça jusqu'à la soirée. Durant la nuit, on prévoit des températures autour de moins 5 degrés. Demain, jeudi, nuageux. Et là, le cocktail se prépare, c'est-à-dire de la neige et de la pluie débutant au cours de l'après-midi. Il y a un risque de pluie verglaçante tard demain en après-midi, heure de pointe qui pourrait être gâchée un peu, avec un maximum de 1 degré. Pour ce qui est de la nuit de jeudi à vendredi, de la pluie, plus 2 degrés. Et vendredi, on prévoit de la pluie venteuse avec un maximum de 3 degrés. Alors, c'est vraiment à partir de demain après-midi que ce bulletin météo spécial s'applique. Et évidemment, plus vous êtes au nord, plus il y a un potentiel de pluie verglaçante, de neige. Mais c'est comme un combo là de différentes précipitations. On commence par la Turquie. C'est pas étonnant, on est rendu à presque 11 000 morts jusqu'à maintenant en Turquie et en Syrie. Et il y a comme une grogne qui s'installe chez les Turcs, entre autres, devant le manque de ressources et, disent-ils, la lenteur des équipes d'urgence. Mais c'est pas facile. Il manque de camions, il manque de carburant. L'aide internationale s'est manifestée, mais de là à se rendre sur place et être efficace, c'est quand même, ça prend un certain temps. Autre chose à considérer également, les 72 premières heures sont importantes. Et la plupart des secouristes disent qu'il y aura toujours des miracles de gens qu'on va retrouver dans les décombres dans 4 jours, 5 jours, 6 jours. Mais c'est une course contre la montre et les espoirs, disons, c'est sûr, s'effilochent au gré du temps. Également, on voit qu'en Syrie, on a moins d'informations, mais quand même le nombre de personnes où on a confirmé le décès monte à chaque jour. Il y a au total 8000 Turcs qui ont été secourus dans les décombres jusqu'à maintenant. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est la communauté internationale. Je pense aux membres de la communauté turque de Montréal qui se mobilisent avec d'autres pour tenter d'abord d'avoir des informations, de communiquer, puis d'apporter un soutien dans la mesure de leurs moyens aux gens là-bas. Alors c'est quand même, disons encore une fois ce matin, on va se rendre en Turquie là pour avoir les infos les plus précises possibles. Bon, on a l'offre de Justin Trudeau aux provinces du Canada. Et vous comprendrez que dans ces opérations-là, il y a toujours, toujours, toujours ce que j'appelle une espèce de maquillage comptable. T'sais, on nous montre les chiffres qu'on veut bien, puis t'essaies de comprendre. Alors, je me fie ce matin à différentes sources, mais essentiellement, ce que M. Trudeau offre, c'est 46 milliards 200 millions d'argent nouveau sur une période de 10 ans. Donc, de l'argent qui n'a pas été promis, annoncé jusqu'à maintenant. Et quand vous faites le calcul de ce montant-là, il y en a à peu près la moitié qui sont budgétés pour ce qu'on appelle des ententes bilatérales entre Ottawa et, par exemple, le Québec, sur une question précise. Troisièmement, si vous combinez ce qui est déjà sur la table, ce qui est déjà annoncé, le fédéral parle de 196 milliards sur une période de 10 ans, qui garantissent une croissance de 5 % par année pour les 5 prochaines années. Mais après ça, ça baisse à 3 %. Je suis pas certain que la baisse de 3 % avec le vieillissement de la population, ça s'avère, je dirais, très réaliste. Alors, c'est clair que les provinces ont dit c'est loin, loin, loin de ce qu'on souhaite. Et rappelons-nous que les provinces avaient déjà annoncé leur volonté d'augmentation, donc de voir la part du fédéral grimper. Puis à l'époque, on disait ça va prendre 28 milliards d'augmentation par année. On est loin de ça. Alors, est-ce que c'est une stratégie de négo? Je pense qu'il n'y a personne qui s'attendait à un miracle. Il y a eu un bon spin du fédéral dans les derniers jours. Et là, on veut mettre de l'argent en santé mentale pour les personnes âgées également. Il n'y a pas de garantie, mais on veut s'assurer que l'argent est dépensé. Puis là, je vous... en santé. Puis ça arrive au moment où M. Legault parle de baisser les impôts. Disons comme timing, c'est assez spécial. Et les commentaires, je vous dirais, je pense à André Picard dans le Globe and Mail ce matin, qui est probablement un des meilleurs chroniqueurs santé au Canada, qui dit que on n'a rien inventé. Que la révolution à venir dans le système de santé passe par autre chose qu'une avalanche de chiffres. Comment on veut soigner les gens? Vous me direz, c'est peut-être pas la place, le moment de faire ça. Mais quand même, t'sais, les milliards, c'est bien beau, là. Mais quel est l'avenir du système de santé? Puis qu'est-ce qu'on va être capable de se payer vraiment dans 5 ans, 10 ans, quand vous voyez pénurie de main-d'œuvre puis augmentation des coûts? Et on va parler avec le ministre fédéral de la Santé, M. Duclos, un petit peu plus tard ce matin. Je veux parler, et je veux rester au fédéral avec, je dirais, cette espèce de cassure, en tout cas tension, au caucus des libéraux fédéraux. Et là, ça fait bien des choses. D'abord, sur le dossier de la conseillère sur l'islamophobie, on sait qu'il y a beaucoup de ministres qui ont exprimé publiquement leur désaccord, compte tenu de ce qu'elle a dit sur le Québec. Là, c'est rendu même que Québec solidaire pense qu'on ne devrait pas la nommer. Parce qu'elle n'est pas pressée de rencontrer Québec solidaire. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est pas la bonne personne pour faire la job. Puis certains pensent que cette job-là, spécifique, est peut-être même pas nécessaire. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, les libéraux, on a vu des ministres, là, Lametti, Rodriguez, qui ont exprimé leur malaise. Ça, c'est un dossier. Le deuxième concerne la langue. Et ça fait 2-3 jours qu'on voit ça. Puis hier, ça a été un peu l'apothéose avec les sorties de Marc Garneau, avec les sorties également de Mme Lambropoulos, qui invente des histoires. Là, c'est elle qui dit que une pauvre grand-mère peut pas être soignée en anglais au Québec, qu'on va la laisser mourir, que la loi fait de la discrimination. Or, c'est faux. Puis ceux qui avaient des appréhensions se sont bien rendus compte que ça ne tenait pas la route. Et vous avez l'autre député, qui sont évidemment des gens de comté anglophone, Osfather, qui veulent empêcher l'adoption de la loi sous sa forme actuelle, parce que pour eux, ce serait de reconnaître le droit du Québec à inclure dans le projet de loi qui bonifie, qui protège le français, la fameuse clause nonobstant, la clause dérogatoire. Puis, je vous dirais... ils sont vraiment là à cheval là-dessus. Fait que quand vous regardez ça, pour M. Trudeau, là, c'est pas une très bonne semaine. Là. Les problèmes sur la langue, sur la religion, sur la haine, sur la discrimination. La personne qui l'a choisi, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent que c'est une bonne idée, en tout cas au Québec. Et même Québec solidaire, là, ça a pris du temps, mais a fait son nid partiellement sur cette question. Oui, et juste finir sur les problèmes des libéraux fédéraux, il y a eu ce député franco-ontarien, Francis Drouin, qui a parlé d'un show de boucan mené par ses collègues. Il dit, je cite, « Le Montreal Island n'a pas le monopole sur la politique linguistique du Canada et la désinformation n'a pas sa place dans ce débat. » Et franchement, on peut avoir des idées, des principes, là, mais si on dit n'importe quoi comme la députée Lambropoulos, qui s'est fait tasser du comité sur les langues, et qui sévit encore, puis qui répète et qui répète les mêmes niaiseries. Tu sais, je m'interrogerais sur avec qui je siège au caucus de mon parti. L'autre dossier ce matin qui est bien intéressant, dans la sphère de la santé, vous vous souvenez de André Simard, la veuve de Robert Bourassa, qui est décédée au terme de souffrances atroces à l'hôpital Sainte-Marie. Et on a découvert donc, et c'est sa fille qui avait écrit une lettre, pour dénoncer les traitements, en fait, surtout pour dénoncer qu'elle n'avait pas eu droit à une fin de vie digne. Et à ce moment-là, il y avait une sortie. Même le ministre Christian Dubé avait dit « c'est épouvantable, ça ne peut plus arriver ». Et là, ce matin, vous avez une lettre de médecin, de professionnel de Sainte-Marie qui déplore cette condamnation inappropriée de ce qui s'est passé. Et là, je veux quand même, parce qu'il faut comprendre ce qu'ils veulent dire, là, que tout ça est basé sur une analyse qui n'est pas factuelle. Tout ça est basé sur le fait que les travailleurs de la santé sont astreints au silence, que c'est une obligation professionnelle et non un aveu de culpabilité. Et suggérer que nous sommes opposés à des soins palliatifs adéquats est inexact et préjudiciable à la confiance de notre population et de la communauté. Ce qui est arrivé à Mme Bourassa, là, c'est qu'on ne pouvait pas lui donner le traitement requis pour atténuer ses douleurs en fin de vie, parce qu'il fallait la transférer aux soins palliatifs. On ne pouvait pas le faire, et le traitement demande une surveillance qu'on ne pouvait pas lui accorder dans l'unité régulière, disons. Mais savez-vous quoi? Là où ces professionnels ont raison, c'est que le cas de Mme Bourassa n'est pas unique. Tous les jours au Québec, il y a des gens qui meurent dans la souffrance parce qu'on n'est pas capable de leur donner les soins adéquats. Parce que le traitement nécessite une présence de personnel. Et donc, si vous n'êtes pas aux soins palliatifs, dans bien des cas, on ne peut pas le faire. Puis même dans des grands hôpitaux. Et c'est sûr que quand c'est quelqu'un de connu, ça soulève le débat. Mais ce qu'a vécu Mme Bourassa, il y a des gens qui le vivent encore aujourd'hui au Québec, dans d'autres établissements. Le fameux chemin Roxham, là. Pas vous autres, là, mais on s'entend qu'il y a une passoire entre le Canada et les États-Unis. Que ces réfugiés, ces migrants, qui espèrent venir au Canada parce qu'ils veulent d'abord échapper à leur pays d'origine dans un premier temps, puis ils sont convaincus qu'ils vont être mieux traités au Canada. Mais il y a une capacité d'accueil qui demeure limitée. Et ça prend une entente. Et je sais que c'est compliqué, car vous et moi, ça fait l'affaire de beaucoup d'Américains, puis même les gardes nationaux qui, tu sais, se gênent pas pour dire « vous voulez rentrer au Canada, c'est par là ». Puis, tu sais, on le sait tous qu'il y a des passeurs, puis on le sait tous qu'il y a une forme de collaboration. Puis on sait plus quoi faire avec eux, là. Des classes d'accueil qui débordent, la capacité des organismes communautaires. Mais le danger, c'est de tomber dans l'image simpliste. Et le PQ, malheureusement, là, beaucoup de respect pour M. Saint-Pierre Plamondon, mais de prétendre que le Québec va aller parquer des chars de la SQ pour bloquer le chemin Roxham, là. La misère à croire qui tient ce discours-là. Quelqu'un... C'est pas une route interprovinciale, là. C'est pas... Puis là, on peut être en désaccord, là, puis dire que ça passe par la souveraineté, mais c'est pas un enjeu pour le Québec comme tel, les frontières. On reçoit le coup, mais on n'est pas ben ben partie prenante à ça. Faut que les Canadiens et les Américains s'entendent. Fait que de brandir cette image-là, sérieusement, il me semble que vous devriez trouver un argumentaire plus solide. Rapidement, on va faire le tour de d'autres nouvelles. Il y a un débat actuellement sur l'âge de la retraite. Vous l'avez vu en France, ça déborde en manif. Puis là, au Québec, on voudrait repousser l'âge à laquelle vous êtes admissible à la retraite. Et c'est intéressant parce qu'en France, on est dans le 64 ans. Puis là, on voudrait dire aux gens, votre retraite anticipée, là, ça sera pas 60, mais 62. Là, il y a toutes sortes d'enjeux sur quelle sorte de métier vous faites, puis votre état de santé physique. Mais c'est clair là, que ça va être un débat quand même intéressant qui va venir ici. Également, je vous parlais de ces pères dégueulasses. Un père incestueux qui écope de 17 ans de pénitencier passe à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un autre père abuseur qui a été déclaré coupable, dont on parlait tantôt Bénédicte. Et il y en a de ces causes, puis il y en a de ces individus-là. C'est épouvantable. Et la raison pour laquelle on parle de ça, c'est qu'il faut dénoncer ces gestes qui laissent des victimes marquées à tout jamais. Côté économie, on se rend compte que les cas de gens insolvables, c'est en hausse. Puis on pense qu'avec la majoration des taux d'intérêt, ça va suivre. Et vous avez le gouverneur de la Banque du Canada qui dit ça va prendre du temps avant que nos mesures, disons, coup de poing, donnent les résultats et ramènent l'inflation à 2 à 3 %. Et ce qui lui fait très peur, c'est l'augmentation des salaires durant cette période. Et puis, un mot aussi pour vous dire que c'était le discours hier sur l'état de l'Union du président Biden, très préoccupé par la situation en Ukraine, par ce qui se passe avec la Chine également. Mais la préoccupation des Américains, actuellement, là, c'est le cash. C'est l'économie, les emplois, les taux d'intérêt. Et on a même vu M. Biden répondre à des opposants qui se trouvaient en salle, donc dans la chambre, lors du discours de du président. Et puis, en parlant de président, ben Zelensky visite de dernière minute en Angleterre. Et il y a une rencontre qui est prévue avec le prince Charles également.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Alors, les transferts en santé, les provinces se demandaient une augmentation de 28 milliards par année. Le fédéral leur offre maintenant, en moyenne, 4,6 milliards. Il y a quelques ajustements. On tombera pas dans la guerre des chiffres, mais surtout regarder ce matin les grands principes. Notre invité, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos. Monsieur Duclos, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand. Bonjour, Paul, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Monsieur Duclos, la première question, l'argent qui est sur la table, est-ce que c'est une base de négociation ou c'est une offre finale?
Ben, premièrement, l'argent qui est sur la table, vous l'avez mentionné, mais c'est aussi en tout 200 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Évidemment, c'est beaucoup d'argent. La plupart des premiers ministres l'ont dit hier. Évidemment, ils auraient aimé en avoir encore davantage. Les associations expertes comme l'Association médicale canadienne disent aussi que c'est beaucoup d'argent et qu'avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Maintenant, est-ce que c'est final? Le premier ministre a été clair. Cet argent a du sens seulement si ça mène à des meilleurs résultats. Et là, il y en a plusieurs qu'on veut atteindre ensemble. Augmenter l'accès à la médecine familiale, réduire les temps d'attente pour les chirurgies, augmenter les soins de santé mentale pour les jeunes en particulier, et moderniser notre système de santé là, qui doit être amené au 21e siècle dans beaucoup de cas.
OK, mais ma question c'était, est-ce que c'est une offre finale?
Ben, le premier ministre Trudeau l'a dit hier, c'est beaucoup d'argent et les premiers ministres des provinces ont dit qu'ils voulaient y réfléchir, mais nous ce qu'on a dit c'est qu'il faut maintenant passer à l'étape suivante de traduire cet argent en résultats, parce que cet argent-là a du sens seulement si ça donne des résultats pour les patients et pour les travailleurs.
Est-ce qu'il y a des conditions de rattacher, que ce soit le montant du paiement de transfert ou les ententes à venir bilatérales?
Alors, comment ça fonctionne? C'est que cet argent-là va être investi dans des priorités communes. Ça fait depuis un an que je travaille avec les ministres de la Santé des provinces et des territoires, dont M. Dubé, pour identifier ces priorités communes, médecine familiale, recruter des travailleurs, les retenir, santé mentale, système de santé moderne, réduire les retards. Donc, c'est des priorités communes sur lesquelles tout le monde s'entend. Maintenant, on est dans une fédération. Les provinces et les territoires ont la responsabilité difficile, d'ailleurs, de gérer les soins de santé. Les plans d'action qui vont être soumis par les provinces et les territoires, ce sont les plans d'action à eux. C'est eux qui vont décider de quelle manière investir cet argent-là. Et par la suite, ben, on va travailler sur des indicateurs communs. Par exemple, combien de gens de plus ont accès à un médecin de famille, à quelle vitesse les retards diminuent, et ainsi de suite, pour pouvoir suivre les progrès qu'on va faire au cours des prochaines années.
Si Québec n'a pas les mêmes priorités, par exemple, si Québec dit, ben moi, le 50% du montant, je veux le mettre sur les soins en santé mentale, l'autre partie, je veux le mettre pour moderniser le réseau. Autrement dit, est-ce que Québec peut faire ce qu'il veut avec l'argent?
Tout à fait. Tant que ça rentre dans les résultats, les priorités communes là, qui ont été partagées à nouveau hier.
OK. Et si il y a une baisse d'impôts, est-ce que Québec est obligé de maintenir son niveau d'investissement en santé ou de croissance d'investissement en santé? Je veux juste savoir s'il y a des fils qui s'attachent à des endroits.
Ben, la réponse est oui. Ça, ils font, ici, l'argent annoncé hier ne peut pas remplacer l'argent des provinces et des territoires. L'important, là, c'est que cet argent-là mène à des meilleurs, que mon fils ou mon frère qui a besoin d'aide pour des questions de consommation puisse avoir des soins de santé mentale rapidement pour que mon père qui a une chirurgie qui a été retardée depuis des mois puisse avoir accès à sa chirurgie plus rapidement. Donc, faut pas que l'argent des provinces diminue quand le fédéral en met davantage.
Les ententes bilatérales, est-ce que déjà vous savez avec le Québec sur quoi vous avez l'intention de parler, de négocier?
Ben, les ententes bilatérales, c'est de l'argent donc qui est annoncé hier, investi dans les quatre domaines de priorité qu'on a mentionnés à nouveau, médecine familiale, travailleurs, santé mentale et un système de santé là, où on n'utilise plus les sacs et les bouts de papier pour que les travailleurs de la santé puissent travailler ensemble. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, monsieur Paul, mais quand moi je vais chez le pharmacien, maintenant j'ai encore besoin d'apporter un petit bout de papier. Mon pharmacien peut pas communiquer avec mon médecin sauf par sac. Ça prend des heures, parfois des jours ouais. avant que...
Mais je veux juste comprendre quelque chose. Pourquoi ça prend une entente bilatérale pour négocier le fait qu'on veut investir pour informatiser le réseau? Pourquoi ça prend une entente bilatérale pour aller... Pourquoi c'est pas dans le montant qui est versé chaque année au Québec, par exemple?
Ben, c'est les deux. Il y a déjà des transferts canadiens en santé substantiels qui vont continuer, évidemment, au cours des prochaines années, qui sont versés pour que les provinces puissent faire ce qu'elles souhaitent faire. Mais on sait que, par exemple, sur les questions des données, connecter les gens à leur dossier médical, connecter les pharmaciens, les techniciens de laboratoire, les ambulanciers, les infirmières, les médecins spécialistes, au même dossier des patients pour éviter qu'il y ait du temps énorme qui se perde. Quand j'arrive à l'hôpital, moi, à l'urgence, des fois, ils me font faire les mêmes tests que j'ai fait il n'y a pas longtemps parce qu'ils n'ont pas accès à mon dossier médical. L'ambulancier qui me reçoit, je suis pas conscient, je suis inconscient, c'est pas ce qu'est l'allergie que j'ai, quel médicament que je prends. Donc, c'est beaucoup de temps, des vies qui sont perdues. Alors, ça, cette technologie-là existe. Ailleurs, en Europe, on l'utilise beaucoup. Au Québec et ailleurs au pays, on commence à l'utiliser assez bien, mais on peut aller plus vite lorsqu'on travaille ensemble. Mais le gouvernement canadien va investir des montants additionnels à ceux mentionnés hier, pour connecter les pharmaciens avec les médecins, les infirmières avec les techniciens de laboratoire et ainsi de suite. Donc, on va aller plus vite parce qu'on va pouvoir travailler ensemble.
Mais, ultimement, c'est la province et le Québec qui décident.
Sur les montants, effectivement, directement envoyés par les ententes bilatérales, le Québec pourrait très bien décider qu'il n'investit rien pour accroître, par exemple, l'accès à la médecine familiale. Il pourrait se dire que c'est pas important pour lui, qu'il pourrait investir tout son argent dans la santé mentale. Ça, c'est un choix que le Québec pourrait faire et okay. capable de faire.
L'autre question, est-ce qu'il y a, parce qu'on parle d'indicateurs, au Québec, on a un tableau de bord. Autrement dit, allez-vous mesurer la performance des gouvernements des provinces puis les mettre jusqu'à un certain point en compétition entre elles?
Ben c'est pas les mettre en compétition entre elles, c'est pour pouvoir suivre l'évolution des progrès qu'on veut faire au cours des prochaines années. On sait par exemple qu'au Canada, il y a une assez grande disparité en matière d'accès à la médecine familiale. Au Québec, malheureusement c'est le cas, là, on est un petit peu en retard par rapport à la moyenne nationale. Bon, c'est important de le savoir parce que le sachant, ben, on peut regarder ce qui se fait ailleurs. Est-ce que ce qui se fait ailleurs pourrait nous aider au Québec à donner à plus de Québécois un accès à un médecin de famille ou à une équipe de médecine familiale? On sait à quel point c'est important pour que les gens évitent de se retrouver à l'urgence quand ils ont des problèmes qu'ils n'ont pas pu régler plus tôt parce qu'ils n'avaient pas accès à un médecin ou à une équipe de médecine familiale.
J'aimerais essayer de comprendre un des aspects de l'entente, là, puis vous me corrigerez si c'est pas ça. Les augmentations année après année pour les 5 prochaines années seront de 5 % exact?
Tout à fait.
Et les années subséquentes, 3 %
C'est ce qui est prévu pour l'instant.
OK. J'essaie juste de comprendre comment on peut raisonner comme ça dans un contexte de vieillissement de la population, de pénurie de main-d'œuvre. Comment on peut dire que dans 5 ans, la croissance de la contribution va être moindre?
Mais pour deux raisons. Ma première chose, c'est qu'évidemment, les cinq prochaines années vont être cruciales. Là, on a des sérieux problèmes dans notre système de santé qui ont besoin d'investissements rapides et c'est un des objectifs de l'annonce d'hier. La deuxième chose, c'est que si on investit intelligemment dans notre système de santé au cours des prochaines années, et le vieillissement des populations est un enjeu très important que vous avez raison de mentionner, si on le fait, en par exemple, en connectant davantage de gens à ce qu'on appelle les soins de santé primaires, la santé familiale, bien, ça va éviter de toujours dépendre des hôpitaux où ça coûte une fortune de traiter les gens et où les gens reçoivent généralement des traitements trop tard et pas adaptés à leurs conditions. Donc, dans un contexte de vieillissement avec l'augmentation des coûts de la technologie, le coût des médicaments, les maladies chroniques et infectieuses qui sont plus fréquentes, il faut changer la façon dont on travaille. On peut se permettre peut-être il y a quelques années, lorsque les populations n'étaient pas aussi vieillissantes, mais en 2023, avec tout ce qui se passe sur la planète et en matière de santé humaine en particulier, il faut renforcer la base de notre système de santé. Et ça passe, entre autres, par les soins de santé primaires.
Non, ça je comprends, mais ce qui est plus dur à comprendre, c'est que vieillissement de la population, vous l'avez dit, des traitements médicaux qui coûtent plus cher, des protocoles qui sont plus ciblés, donc plus dispendieux, des médicaments d'exception dans certains cas. On a un robot modernisé, là. C'est pas vrai que ça va coûter moins cher dans 5 ans. Ça va coûter plus cher.
C'est possible, ça coûte plus cher, mais ça va coûter moins cher dans 5 ans si on investit correctement dans les 5 prochaines années. À nouveau, 2 clés, soins de santé primaire et aussi, comme vous avez mentionné, la question des médicaments et des traitements. Il y a beaucoup d'informations précieuses qui sont perdues présentement parce que les chercheurs, les cliniciens ne peuvent pas travailler ensemble parce qu'ils n'ont pas accès à des données précieuses sur qu'est-ce qui fonctionne. Les médicaments, là, c'est quoi les meilleurs médicaments qui fonctionnent au pays? Bien, on travaille en silo et les cliniciens, les médecins, les infirmières, les infirmiers ont de la difficulté à partager entre eux, à travers tout le pays, les bonnes façons de travailler avec les patients.
Moi, j'entends le contraire, là. J'aimerais ça que vous m'expliquiez en quoi les médecins, les professionnels, les chercheurs à travers le Canada collaborent pas entre eux, savent pas ce qu'un fait et l'autre.
Ah, ils le font, mais ils vont le faire encore mieux dans les prochaines années lorsqu'on va avoir un système de santé, de données de santé moderne. C'est aussi simple que de pouvoir partager les dossiers électroniques de santé et que les gens puissent y avoir accès. Vous, Paul, là, si vous prenez soin de votre maman ou votre frère, ben avoir accès à son dossier de santé électronique, ça peut vous aider à en prendre soin de cette personne-là. Mais même pour vous-même, savoir où est-ce que vous en êtes dans vos tests, quelles ont été les recommandations du médecin que vous avez peut-être oublié il y a quelques mois, pouvoir les consulter sur un site, une application, ça c'est quelque chose d'important pour vous comme personne. Mais important aussi pour ceux, les professionnels de la santé qui vont prendre soin de vous.
OK. En terminant, M. Duclos, en résumé, le fédéral, par la loi là, sur l'assurance santé, là, fixe des grands paramètres, dit aux provinces, voici combien on vous donne, puis à partir de là, opérez le système, puis soyez performants.
C'est une question de respect. Le fédéral ne voudra jamais, et je ne prétendrai jamais vouloir le faire, micro-gérer les systèmes de santé à travers le pays. C'est une tâche énormément difficile, souvent ingrate. Mes collègues ministres de la Santé font ce travail dans un contexte qui est difficile avec le vieillissement et toutes les choses dont on vient de parler tout à l'heure. Donc, c'est une question de respect. Moi, je suis là pour les
non, mais
les
par appuyer. Exemple, M. Duclos, les frais accessoires, c'est le fédéral qui a forcé le Québec à les faire tomber.
Ah, par contre, si vous parlez de ça, oui. Comme ministre fédéral de la Santé, moi, j'ai une obligation de m'assurer que les obligations de la Loi canadienne de la Santé, pour s'assurer que les gens ne payent pas avec leur carte de crédit, n'ont pas besoin de s'endetter, de s'hypothéquer pour avoir une chirurgie. Ces obligations-là, de respecter la loi, financement public, accessibilité publique, équité aussi en matière d'accès aux soins de santé, ce sont des obligations qui sont les miennes et je vais devoir tout faire et je vais continuer à tout faire pour m'assurer que je les respecte.
Mais comment ça se fait qu'on a toléré ça pendant des années et des années et des années au Québec si c'était un grand principe?
Bon, là, il faudrait parler aux anciens ministres et je ne sais pas exactement à quoi vous répondre, mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que j'en ai parlé régulièrement avec les ministres de la Santé dans la dernière année. Le premier ministre Trudeau l'a dit très clairement hier au premier ministre des provinces qui était avec lui durant la conférence. C'est une obligation collective. Notre système de santé au Canada fonctionne mieux qu'un système au sud de la frontière. Il coûte moins cher, donne des meilleurs résultats en matière de santé et de santé publique et est certainement beaucoup plus équitable que ce qu'on trouve au sud de la frontière où les gens payent avec leur carte de crédit. Puis si t'as pas un bon compte de banque, mais malheureusement, tu ne reçois pas les soins de santé dont tu as besoin.
M. Duclos, merci. Bonne journée.
Merci. Bonne journée à tout le monde.
Jean-Yves Duclos est ministre fédéral de la Santé.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Maintenant, on va se tourner vers le Québec parce que hier, on a vu que M. Legault dit, ben, j'accepte. C'est pas ce qu'on demandait, mais on ne laissera pas d'argent sur la table. Le ministre des Finances, Éric Girard, est avec nous. M. Girard, bonjour.
Bonjour.
Bon, là, je veux comprendre exactement les chiffres. Pour le Québec, ça représente combien d'argent neuf par année?
Ben, c'est par année, le chiffre est différent chaque année, là, mais ça représente, on va faire des chiffrons, là, ouais. 10 milliards sur 10 ans ou 1 milliard par année.
1 milliard par année. Sur un budget de combien en santé?
C'est 22-23, notre budget était autour de 58 milliards.
58 milliards, puis c'est 1 milliard de plus qui s'ajoute...
Oui, c'est des montants, somme toute, qui sont négligeables. C'est une offre qui est décevante et ils n'ont pas corrigé le sous-financement chronique du fédéral en santé au Canada.
Est-ce qu'on se trompe si on dit que le sous-financement chronique a commencé à l'époque de Paul Martin, quand il était ministre des Finances?
Oh, là, c'est une très bonne question, là. C'est-à-dire que le financement diminue. On peut dire que la part du fédéral dans le financement des soins de santé est approximativement 12%, là, puis d'où la demande des provinces d'augmenter de 22 à 35, là, a diminué d'approximativement 12% depuis les années 80.
OK. Hier, on a senti, là, puis...
Hier, on a obtenu maximum 2 de ce 12%-là. Okay. Donc, un sixième de ce qu'on demandait.
OK. Là, vous l'avez dit, c'est pas suffisant et tout ça, mais quoi, c'est le principe, bon, ben, vaut mieux ça que rien pantoute?
Ben, c'est-à-dire que nous, pour que ça s'intègre au cadre financier, là, il faut que ce soit dans le budget du gouvernement libéral et que ce soit voté. Puis là, on peut intégrer ça dans notre cadre financier. Parce qu'il y a des sommes qui ont été données hier qui étaient déjà dans leur plateforme électorale, qui avaient été annoncées, mais qui n'étaient pas votées. Alors, une fois que ce sera dans le budget, on pourra intégrer ça à notre cadre financier.
OK. Selon vous, là, pour avoir un réseau de la santé performant, qu'on modernise, ça prendrait un budget de combien par année? Et quelle devrait être la part du fédéral dans ça?
Bien, la part du fédéral devrait être la même qu'elle était dans les années 80, c'est-à-dire 35%, 12% de plus. Ça représenterait 6 milliards pour le Québec. On a obtenu 1 milliard hier. Et ce que ça prend pour améliorer les soins de santé, et c'est ce qu'on veut tous, c'est ce que les Québécois demandent, c'est que nous exécutions le plan du ministre Dubé, qui est solide, il est associé à des investissements qu'on va faire, puis qui sont là, on répond présent. Si vous regardez les budgets de la santé au Québec là, depuis qu'on est élu, on répond présent, on va donner les moyens au ministre Dubé et à son équipe pour exécuter son plan. Il y aura des changements législatifs, il y a des négociations dans le secteur public. Nous, on sait où on veut aller, on va exécuter ça, puis c'est très important que les Québécois voient une différence dans les prochaines années.
Est-ce que le fait que le fédéral en mette moins, ça vous empêche de réduire potentiellement les impôts des Québécois?
Non, parce que on a été assez clair là-dessus en campagne électorale, je l'ai dit plusieurs fois. Le débat sur les baisses d'impôts, puis là, on a des consultations budgétaires, on écoute ce que la population a à dire là-dessus. Il y a eu une consultation à l'élection aussi. Ce qu'on a dit, c'est que pour réduire les impôts, nous allions réduire la dette du Québec moins rapidement. Continuer à réduire le poids de la dette, mais un peu moins rapidement. Donc, il n'y a aucun lien entre la baisse d'impôts et le niveau de services en éducation et en santé qui sont les principales missions de l'État, et c'est une priorité de notre gouvernement.
OK, mais vous savez comment sont les politiciens. J'entends des gens fédéraux dire, ben, s'ils sont capables de baisser les impôts de 2 milliards, on va pas leur en donner plus pour la santé.
Ben ça, c'est de la politique, là. Moi, je suis ministre des Finances. Ça va être mon cinquième budget. Je gère les finances publiques du Québec de façon prudente et responsable. Le ministre Dubé a un plan sérieux. On va l'exécuter et on va faire une différence pour les Québécois.
OK. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des fenêtres ouvertes pour une négociation pour bonifier ces montants-là? Peut-être pas la semaine prochaine, là, mais éventuellement.
Ben, je pense que la première étape, c'est que ces montants-là soient dans le budget. Ça nous permettra de les mettre dans le cadre financier, de les investir en accompagnement aux efforts importants qu'on fait déjà. Et puis, dans la mesure où on a obtenu 2/12, là, puis excusez-moi d'utiliser cette expression-là, mais on a obtenu pour le Québec 1 milliard du 6 qu'on demandait. Ben, on va continuer de réclamer que le fédéral ramène sa contribution où elle était dans les années 80, c'est-à-dire 12% supplémentaire du poids total des dépenses de santé au Canada.
OK. Deux questions rapides en terminant. Là, il y a l'annonce d'augmentation des taxes sur les cigarettes.
Oui.
C'est 8 $.
C'est une mesure de santé publique, là, c'est-à-dire qu'on est à 13% de fumeurs et on veut descendre à 10%, c'est très important, et on a les taxes sur les cigarettes qui sont les plus basses au Canada en raison de la présence de contrebande, et là on fait un meilleur travail au niveau de la lutte de la contrebande, et donc on a décidé d'augmenter les taxes sur les cigarettes, puis ça c'est... La hausse de prix, ça fait baisser le nombre de fumeurs, le lien est direct.
OK, vous l'avez dit, là, on a les taxes les plus basses. Je comprends le contexte de la contrebande, mais est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres augmentations puis qu'on va rejoindre en quelque part le niveau canadien?
Non. Ce que j'ai annoncé aujourd'hui, c'est on est transparent, on l'annonce, c'est en vigueur, c'est fait. À la mise à jour, on a annoncé une taxe sur le vapotage. C'est le même en pourcentage, la taxe sur le vapotage, c'est beaucoup plus important. Et c'est le même objectif, c'est augmenter le prix pour réduire la consommation.
OK. L'autre question que beaucoup de Québécois se posent, c'est tout le débat sur l'âge de la retraite. On voit ce qui se passe en France. Une volonté peut-être ici de ramener l'âge de la retraite, la pousser de 60 à 62, là, la première étape possible. La FTQ et d'autres groupes se disent en opposition. Vous en êtes où là-dedans?
Bien, c'est le début des consultations publiques aujourd'hui. On a mis sur la table un document de consultation. On est une obligation de la loi aux 6 ans de consulter. Et je pense qu'on a une responsabilité de se poser ces questions-là, puisque la longévité a augmenté de 7 ans, et en 2030, ce sera 9 ans de plus que les gens vivent aujourd'hui par rapport à il y a 40 ans. On a une responsabilité de se poser ces questions-là. Puis là, on va écouter tout ce que les parties prenantes ont à dire sur de nombreux sujets, dont celui-ci. Mais c'est important de dire qu'on a un régime qui est en santé, puis l'objectif principal, c'est d'assurer la sécurité financière des Québécois à la retraite.
OK. Mais ça veut dire qu'actuellement, je peux prendre ma retraite, bon, idéalement quand je veux, là, mais toucher au bénéfice de ma retraite à l'âge de 60 ans. Est-ce que pour vous, ça peut pas être ça, ça peut pas être le statu quo. Est-ce qu'il faut maintenant déplacer la date?
On consulte, mais vous avez pas tout dit là dans votre phrase. C'est que si vous prenez votre retraite à 60 ans, vous êtes votre rente pour le reste de votre vie va être 36% inférieure que si vous la prenez à 65 ans. Fait que donc, puisque vous allez vivre longtemps, est-ce que c'est bon? Parce que moi, je suis dans l'intérêt supérieur du Québec pour l'ensemble des Québécois. Là. Je représente pas de partie prenante. Là. Et donc, est-ce que, étant donné que votre vie est que notre vie est plus longue à tous en moyenne, est-ce que c'est bon d'avoir 36% moins de prestations pour une période plus longue? C'est ça qu'on veut encourager les gens à ne pas prendre leur retraite à 60 ans.
Est-ce que je comprends?
Plutôt la prendre à 65 ans.
Mais est-ce que je comprends que l'idée, c'est de faire travailler les gens 2 ans de plus? Idéalement.
L'idée, c'est que la sécurité financière des Québécois soit renforcée, et pour ce faire, le régime des rentes du Québec, c'est un des piliers. Et si vous prenez votre retraite à 60 ans, vous avez 36 % moins de rente que si vous la prenez à 65 ans.
Non, mais ça, c'est mon choix.
C'est votre choix, mais vous prenez un risque financier important. Alors moi, je suis dans la gestion des risques de retraite de l'ensemble des Québécois.
Je comprends, mais c'est mon choix. Si je dis, mais moi, je le prends, ce risque-là, je suis prêt à aller. Mais si vous m'empêchez de le faire à 60 ans, puis pour avoir le taux de base, là, ce 36 % ça prend 62 ans, en gros, on peut se le dire.
Non, mais à 62 ans, vous allez avoir une rente plus élevée. Vous allez être pénalisé de seulement 20 %.
OK, mais ça, c'est le régime actuel. Il n'y a rien qui dit que vous n'êtes pas en train de le changer dans après vos consultations.
Bien, c'est-à-dire que nous, on a, aux 6 ans, on a une obligation de consulter. On prend nos responsabilités, on met un document de consultation sur la table et on va écouter ce que les parties prenantes ont à dire.
Okay,
et c'est ça, être au gouvernement. Il faut consulter, écouter, puis on prend des décisions après.
Non, mais je comprends. Mais j'entends les ministres français qui sont dans le même débat, là, puis c'est un peu plus houleux, là, c'est les manifs.
Mais c'est pas le même débat, M. Arcand, parce que eux, leur régime n'est pas en santé financière. Alors, ils visent à renflouer leur régime.
Non, mais ils
dans
disent plus
cas,
que ça.
On vise à assurer la sécurité financière des Québécois.
C'est vrai ce que vous dites, mais ce qu'ils disent aussi, c'est qu'ils ont besoin de main-d'œuvre et qu'ils souhaitent que les gens, plutôt que de partir à la retraite à 60 ans, 61, restent des années de plus sur le marché du travail. Je comprends l'objectif financier, mais il y a une réalité de main-d'œuvre aussi.
Mais ça va aider aussi, mais c'est pas l'objectif principal. Je vous dirais que c'est un objectif secondaire. Et vraiment, la question qu'on doit se poser, c'est étant donné que l'âge, que la vie à la retraite est prolongée de 9 ans en 2030, puis il faut pas oublier que les gens étudient plus longtemps aussi. Alors la période d'accumulation de revenus de retraite est approximativement 10 ans inférieure à ce qu'elle était autrefois. C'est pas avantageux d'encaisser votre régime de rente du Québec avec une pénalité de 36 %.
C'est sûr, mais ça demeure un choix personnel. Ça, c'est ça,
oui, en bout de ligne. Mais moi, je suis le fiduciaire des finances publiques, je suis responsable de Retraite Québec. Je ne suis pas dans les choix personnels, je suis dans les décisions, dans l'intérêt supérieur du Québec.
M. Girard, bonne journée.
Mais je vous remercie beaucoup.
Merci. Éric Girard est ministre des Finances.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Déjà, on sentait un certain craquement avec la nomination de la conseillère spéciale sur l'islamophobie au sein du caucus et même du Conseil des ministres québécois qui ont exprimé un certain malaise, pour ne pas dire autre chose, sur les propos tenus concernant le Québec. Depuis, il y a eu une forme d'excuse. Et puis, depuis quelques jours, on le voit maintenant, ça se tire dessus concernant la protection et la promotion du français. Il y a un projet de loi, le projet de loi C-13, qui a été déposé. L'objectif, c'est de protéger la place du français au Canada. Et là, on voit quelques députés libéraux fédéraux du Québec tenir des propos. Évidemment, ce qu'il y a de plus fou, là, ce qu'on a entendu et qui est faux, là, ce sont les propos de Emmanuela Lambropoulos qui essaie de nous faire croire que c'est impossible pour quelqu'un de se faire soigner au Québec en anglais. D'autres députés comme Housefather, qui représente la circonscription de Mont-Royal, qui prétend que c'est un drame que de vouloir renforcer le français. Et vous avez même Marc Garneau qui dit que toute référence à la charte québécoise de la langue française n'a pas sa place dans un texte fédéral. Pablo Rodriguez est ministre du Patrimoine et lieutenant du Québec. Monsieur Rodriguez, bonjour.
Bonjour, M. Arcand. Merci de me recevoir.
Comment ça va au caucus?
Ben, ça brasse. Il y a des discussions difficiles. Elles sont parfois nécessaires, mais vous savez, il y a un moment pour discuter, il y a un moment pour avancer. Puis là, ben, on a discuté. C'est le temps d'avancer.
Est-ce que je comprends que les discussions sont terminées?
Ben moi, je rencontre ma gang ce matin. Vous savez, on a un bon projet de loi. Je l'avais dit tantôt, c'est un projet de loi qui garantit aux travailleurs d'entreprise fédérale de pouvoir travailler en français. Ça garantit l'accès aux services en français. Ça reconnaît que le français est la seule langue menacée. Ça permet de renforcer le français au Québec, partout au Canada. Alors, il y a des collègues anglophones qui ont des malaises, qui ont des questions, mais maintenant, on a discuté. Mais c'est un bon projet de loi. Il faut aller de l'avant, M. Arcand.
OK, mais quand vous me dites on en a discuté, il y a deux choses, là. D'abord, d'exprimer des questions, c'est tout à fait légitime. D'avoir des désaccords, c'est tout aussi légitime. Mais est-ce que je comprends que M. Garneau rentre dans le rang? Est-ce que je comprends que M. Haasfader rentre dans le rang? Qui vont voter en faveur de ce projet de loi?
Ben, c'est mon souhait. C'est des discussions qu'ils auront avec le WIP si nécessaire à ce moment-là. Mais moi, ce que j'ai dit à l'équipe, ce que j'ai répété ce matin, c'est qu'on a un bon projet de loi. Il faut faire plus pour le français chez nous, Québec, plus pour le français à travers le Canada. Et je peux comprendre certaines inquiétudes, mais ce projet de loi garantit aussi les droits des anglophones. C'est un bon projet de loi. Ce qui est parfait, non. Mais ce qui est nécessaire, oui.
Non, mais ce que je veux juste comprendre, là, est-ce qu'ils ont le pouvoir de voter contre? Est-ce qu'ils peuvent demeurer membres du caucus tout en votant contre un projet de loi présenté par le gouvernement?
Ben, ça, c'est des discussions à avoir avec le WIP, mais ça ne cache pas la possibilité de répondre, la capacité de répondre à tout ça, mais mon choix, c'est qu'il n'y a plus de projet de loi. C'est-à-dire, on est une équipe, ce projet de loi-là, il fait partie du mandat de la ministre, il fait aussi partie des promesses électorales. Donc, chacun d'entre nous s'est présenté en ayant ça dans la plateforme. On veut tous promouvoir le français, défendre le français, qui n'est plus chez nous.
OK. Là, je parlais de deux députés qui ont des objections. Là, je vais vous parler d'une députée qui dit n'importe quoi, Emmanuela Lambropoulos. Est-ce que c'est permis au caucus du Parti libéral fédéral du Québec de dire n'importe quoi sur ce qui se passe au Québec?
Non, mais c'est-à-dire que j'ai pas l'occasion de parler à Mme Lambropoulos. Elle fait référence à une discussion aurait eu lieu, je sais pas, j'étais pas là.
C'est parce qu'elle propage le fait que c'est impossible de se faire soigner, par exemple, en anglais, que les médecins vont être quasiment emprisonnés s'ils parlent en anglais à une patiente.
Mais je connais pas la teneur exacte de ses propos. Si c'était le cas, c'est faux. C'est pas le cas au Québec, évidemment. Mais encore une fois, pour revenir au projet de loi, moi, je m'attends, parce que c'est un bon projet de loi pour les francophones, chez nous et à travers le Canada, que mes collègues l'appuient. On a discuté, puis c'est correct de discuter. C'est normal d'avoir des inquiétudes, les exprimer. Mais à un moment donné, M. Arcand, vous le savez, en politique, pour prendre des décisions, il faut trancher, il faut avancer. Et c'est ce que je veux qu'on fasse aujourd'hui.
OK, mais là, j'essaie de décoder votre message. Là. Vous dites à Garneau, Haasfader, puis Mme Lambropoulos, là, vous vous rangez. C'est terminé, là, la dissidence.
Ben, ce que je leur dis, c'est que oui, c'est notre projet de loi. On a tous fait campagne là-dessus. On n'avait pas deux programmes. On avait un seul qui faisait état du recul du français, qui faisait état de la nécessité de promouvoir le français, de le défendre, d'en avoir plus, pas moins. Ils ont mis leur nom sur un bulletin de vote qui en défendant cette idée-là. Alors moi, je m'attends à ce qu'ils l'appuient.
OK. Et quelle est la conséquence de la dissidence si elle continue?
Ben, encore une fois, ça, c'est une question avec le WIP. J'ai déjà eu ce job-là, M. Arcand, il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre.
OK. Et question un peu bizarre, là. Ils sont où, les autres députés du Québec, du caucus libéral-fédéral? Je vous ai entendu, j'ai entendu M. Lamettier un peu, mais les autres ont l'air pas mal muets.
Ben, je pense que...
Ça a pris un franco-ontarien hier pour venir un peu braser le pommier.
Oui, mon ami Francis Drouin. C'est ce qu'on avait là avant, bien avant que Francis s'exprime. Puis je comprends son intervention aussi. Je la comprends très, très bien aussi parce qu'il y a des besoins énormes. Francis, son inquiétude, c'est pouvoir élever ses enfants en français à l'extérieur du Québec. C'est de pouvoir les envoyer à la maternelle en français. Et c'est justement pourquoi ce projet-là doit être adopté. Maintenant, ces discussions-là ont lieu depuis un bon bout de temps au sein du caucus. Et les francophones veulent, en fait, je pense, beaucoup d'anglophones aussi au sein du caucus veulent que le projet de loi aille de l'avant. Et là, M. Arcand, je pense que c'est le temps de serrer les rangs puis qu'on y aille.
OK, mais ça aurait été bon, une démonstration, appelons ça, plus massive de solidarité?
Beaucoup de ces discussions-là se passent en interne. Ça a été le cas jusqu'à maintenant. Je m'attends à ce que ça soit le cas dans quelques minutes ou quand ça commence vers 8 heures. Puis je m'attends aussi qu'à la fin, on aille de l'avant. On aille de l'avant parce que on l'a dit, M. Arcand, vous l'avez dit vous-même, soit non, il y a un recul, c'est un recul du français, c'est pas un recul de l'anglais. L'anglais n'est pas menacé, il n'est pas chez nous, il sera pas à travers la planète, étant donné chez nous la géographie et à travers le monde, étant donné l'omniprésence des médias sociaux. Donc, il y a une langue à défendre, c'est le français, puis on va le faire.
OK. Monsieur Rodriguez, on vous a vu grincer des dents quand on a annoncé la nomination de Mme El Gawabi. Les propos qu'elle a tenus sur le Québec, M. Lamettier aussi. Vous aviez pas l'air très à l'aise. Bon, il y a eu depuis ce temps des excuses, etc. Québec solidaire, même Québec solidaire demande sa démission. C'était comme assez unanime au Québec. Êtes-vous à l'aise avec cette nomination, donc comme émissaire pour la lutte contre l'islamophobie?
Ben, ses propos m'ont beaucoup blessé, je l'ai dit dès le départ, même insulté, je voudrais, comme Québécois. Et je l'ai rencontré, j'ai passé une heure et demie avec elle. Puis ça a été une discussion ouverte, franche. Je vais expliquer du rôle de l'Église, du rôle omniprésent de l'Église, de la Révolution tranquille, du rôle nécessaire de la Révolution tranquille. Pourquoi au Québec on voit l'Église, la religion différemment? Et je pense qu'elle m'a entendu. Maintenant, c'est temps de tisser des ponts. Est-ce qu'elle a blessé beaucoup de monde? Oui, dont moi, dont plusieurs autres. Mais ça serait pas la première personne qui a blessé du monde qui aurait le droit à une deuxième chance.
OK, fait que vous êtes d'accord avec le fait qu'elle demeure en poste.
Oui, il y a un travail important à faire. Cela dit, il faut qu'on maintienne le contact, il faut qu'il y ait une sensibilisation qui se fasse. Elle l'a reconnu, elle connaît pas bien le Québec, elle connaît pas bien notre histoire, elle a du travail à faire. Je m'attends qu'elle le fasse, puis je m'attends qu'elle tisse des ponts.
Mais ça vous inquiète pas de donner un mandat comme celui-là à quelqu'un qui dit ne pas trop connaître l'histoire d'une partie du Canada, qui peut dire n'importe quoi, pas tenir compte du contexte, puis on dit à cette personne, vous êtes maintenant celle qui va tisser les ponts entre les communautés?
En fait, je dirais qu'il n'y a personne qui a le droit de dire n'importe quoi. Maintenant, on ne peut pas s'attendre à ce que quelqu'un connaisse tout. Moi-même, je ne connais pas super bien l'Alberta ou d'autres provinces, mais je fais une job au niveau national. Moi, je m'attends, puis elle me l'a dit, à ce qu'elle s'informe plus sur le Québec, qu'elle soit plus sensibilisée au niveau du Québec. Il y a beaucoup de travail à faire au niveau du vivre ensemble, au niveau de la lutte à la discrimination. C'est partout, pas plus chez nous au Québec qu'ailleurs, là. Partout.
OK.
Je m'attends qu'elle fasse, puis je m'attends à ce qu'on puisse continuer ces discussions-là. Ou est-ce que, regarde, je vais lui parler du Québec comme faut.
Parfait. J'ai une dernière question. Vous êtes le ministre du patrimoine. Est-ce que je comprends que le mandat de la présidente de Radio-Canada vient à échéance là, dans quelques mois? Je pense au mois d'avril.
Oui, cet été.
Ah, OK, durant l'été. Est-ce que le mandat va être renouvelé? Est-ce que Mme Tate va demeurer présidente?
Je suis en train de regarder ça, M. Arcand. Lorsqu'on aura une réponse, on vous la transmettra.
OK. Est-ce que vous hésitez ou c'est pas le temps de donner la réponse?
C'est lorsqu'il y a des nominations de hauts dirigeants comme celle-là, il y a des facteurs qui sont tenus en compte, on a des discussions, des rencontres, et c'est le cas actuellement.
Je vais partager avec vous ce que j'entends. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ce ne l'est pas, mais des fois, quand on partage... qu'il y aurait au sein de Radio-Canada, appelons ça, peut-être pas une guerre interne, là, mais une grande rivalité entre le réseau anglais et le réseau français, que beaucoup pensent que Madame la Présidente a plus qu'un faible pour le côté anglophone et que le Radio-Canada francophone perd des plumes à l'intérieur. Est-ce que vous avez entendu parler de ça?
C'est souvent, Radio-Canada, curieusement, souvent, ça reflète un peu la situation nationale, c'est-à-dire des différences de point de vue, des façons de voir des choses différemment. J'ai entendu toutes sortes de choses, tout ça est tenu en compte lorsqu'on discute à l'interne. Absolument.
OK, mais vous avez entendu que ça roule pas carré, entre les Franco et les Anglais.
Vous savez, M. Arcand, on entend des rumeurs sur bien des choses.
Là, on entend tous les deux la même chose, j'ai bien compris.
J'ai entendu bien des choses aussi, mais j'ai entendu des bonnes choses également, M. Arcand, je dois tenir compte de tout ça.
Merci, M. Rodriguez. Au revoir. Pablo Rodriguez est le lieutenant du Québec et ministre du patrimoine.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Très bien, allons en Turquie, puisque le bilan, bien sûr, c'était malheureusement prévisible, s'alourdit d'heure en heure. On parle actuellement de plus de 11 000 morts en Turquie et en Syrie. Je vais aller retrouver là-bas Sonia Batacharia, qui est journaliste, correspondante pour France 24. Elle est dans le sud de la Turquie. Sonia, bonjour.
Bonjour.
Peut-être nous donner donc les plus récentes informations. On peut lire, en tout cas ici à distance, que les gens commencent à trouver que les opérations prennent du temps à donner des résultats.
Oui, et ça fait maintenant plus de 48 heures, 36 je dirais même, après les doubles séismes qui ont eu lieu lundi. Je peux vous dire que depuis quelques heures, depuis peut-être même mardi soir, il y a beaucoup plus d'équipes de secours. On compte 95 000 Turcs qui soient bénévoles ou professionnels qui sont sur ce secteur qui est extrêmement large et qui couvre maintenant on dit 10 régions et pas 8, c'est encore plus de dégâts que fait. Il y a aussi 5000 sauveteurs qui viennent du monde entier. Là, je suis sur un site dans la ville de Osmaniye, un site où j'étais déjà présente dans la nuit pour suivre une équipe de sauveteurs français qui travaillent avec des Turcs. Et là, ils travaillent sur un site d'un immeuble de 8 étages qui s'est effondré. Ils pensent qu'il y a entre 32 et 38 personnes coincées à l'intérieur. Là, ils viennent de sortir deux corps. Il n'y a pas très longtemps, malheureusement, ils sont pas en vie. Mais il faut dire que ce site est assez grave dans le sens où quand l'immeuble s'est effondré, il s'est pas effondré comme un château de cartes dans le sens où on ne peut distinguer les étages qui sont tombés les uns sur les autres. C'est vraiment un espèce de d'amas de ruines, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est très poussiéreux et donc ça veut dire qu'il y a très peu de poches d'air à l'intérieur, ce qui veut dire que les sauveteurs savent que si même il y a des gens qui n'étaient pas morts au moment du séisme ou juste après, ils ont eu très peu de poches d'air, d'oxygène pour respirer, qui a bien sûr pas aidé leur situation.
Il y a des images de sauvetage qui ont fait le tour du monde, des enfants qui ont été retrouvés, même un bébé qui a survécu. C'est extrêmement touchant, mais ce que vous nous dites, c'est que plus le temps passe, et compte tenu un peu de ce genre de structures là qui se sont écrasées, ça va être difficile de retrouver des survivants.
Oui, c'est ça. En fait, il y a déjà plein de choses à prendre en compte. D'immeuble en immeuble, selon sa construction, les matériaux de construction, les normes qui ont été respectées ou pas.
Je pense que ça a coupé malheureusement. Dommage, mais on peut comprendre dans les circonstances. Elle est dans un village du Sud, elle est en déplacement. Et on comprend aussi qu'il y a un deuil national qui a été décrété pour 7 jours. On parle beaucoup de la Turquie, mais le bilan est extrêmement lourd en Syrie. La Syrie qui tente d'avoir de l'aide internationale, mais je rappelle qu'il y a un contexte de guerre, puis un contexte de sanctions, ce qui fait que c'est plus compliqué, mais c'est extrêmement difficile du côté de la Syrie.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Bon, on va parler de la série Mégantic qui sera disponible à compter de demain sur Club Illico. Évidemment, ça porte sur les événements tragiques du lac Mégantic, juillet 2013. Sophie Lorrain est avec nous. Elle est la productrice, réalisatrice de la série. Bonjour.
Je suis pas la réalisatrice.
Non, c'est vrai.
Alexis Durambeau qui est le réalisateur de la série.
Corrige la note. Parfait. Productrice. D'abord, oui. Catherine est là, on va en discuter. Oui. Venu comment cette idée de faire revivre les événements de Mégantic?
Ça vient pas d'Alexis ni de moi. C'est Sylvain Guy qui avait été sollicité par un producteur qui est devenu notre coproducteur aussi, Anton Cozzolino, pour aller rencontrer des gens de Mégantic parce qu'il avait reçu un appel. Donc il y avait des gens qui avaient envie de confier ce qu'ils avaient vécu le soir du 6 juillet 2013, puis dans cette nuit-là. Et donc, Sylvain Guy était pas très très ouvert à faire un projet là-dessus. Il refusait sans cesse l'invitation, puis à un moment donné, il est allé. Il a rencontré des gens, il a été bouleversé. Les deux nous ont communiqué avec nous. Anton nous a demandé, venez donc voir. Vous avez le know-how pour faire ça, puis tout ça. Puis Alexis et moi, on était aussi rébarbatifs à l'idée d'y aller. Puis finalement, à un moment donné, on est descendu à Mégantic, on est allé rencontrer les gens. Puis c'est seulement quand on a entendu les témoignages que là, on a fait « Oh, pelaye ». On a été vraiment chamboulés parce que comme tout le monde, nous, ce qu'on a vu, c'est l'explosion, c'est le champignon, c'est toutes les images et tout le côté spectaculaire et médiatique de l'affaire.
Mais qu'est-ce qui vous a convaincu de le faire, le projet?
C'est vraiment ce que les gens nous ont rencontrés.
Ils vous ont raconté quoi?
Ils nous ont raconté leur histoire, ils nous ont raconté ce qu'ils avaient vécu cette nuit-là. Ils nous ont livré leur quotidien, le plus intime de leur vie, en fait, parce qu'il n'y a rien dans leur vie qui a accoté cette tragédie-là. Alors, quand les gens nous ont confié ça, de deux choses l'une, ou bien on repartait chez nous, puis on décidait d'annuler ça, puis de rien faire avec. Mais on a été tellement transportés, tellement touchés qu'on s'est dit, on peut pas taire ça. Il y a aussi le fait qu'il faut pas oublier non plus que ces gens-là, s'ils avaient senti le besoin de communiquer leur souffrance puis de partager avec nous l'intimité de ce qu'ils avaient vécu, c'est parce qu'en quelque part, ils avaient besoin d'exprimer ça, puis c'était une sorte de catharsis pour eux de pouvoir le faire. Alors, on s'est dit, nous, ils savaient aussi qu'on n'était pas des boulangers, là. On fait de la dramatique dans la vie, puis on s'est dit, OK, on prend nos responsabilités, puis on va le faire.
Et dès le départ du projet, Sophie Lorrain, il y a eu des critiques. Dès qu'on a su, en fait, qu'elle avait une série sur Mégantic, il y a eu des critiques, même avant même la bande-annonce. Oui. Il y a eu une enflure aussi là-dessus. Mm-hmm. Comment vous l'avez vécu, vous, comme productrice et avec Alexis aussi réalisateur? Vous saviez exactement ce que vous faisiez, mais il y avait toujours ces gens qui revenaient pour...
C'est normal aussi que les gens fassent, écoutez, les plaies sont encore vives. Oui, ça fait 10 ans. Est-ce qu'il est trop tôt? Posez-moi pas la question parce que sincèrement, je ne sais pas. Cela dit, comme je disais à Paul il y a 2 minutes, à partir du moment où les gens nous confient quelque chose, c'est parce qu'ils ont besoin de l'exprimer puis ils ont besoin de transmettre ça au reste du Québec puis au reste du monde. Alors, on a essayé, on s'est dit, on va prendre nos responsabilités jusqu'au bout. On a communiquer avec la population à travers les médias, à travers aussi l'équipe de proximité qui est une équipe de gens absolument extraordinaires, travailleurs sociaux, psy, etc. et d'intervenants qui sont à Mégantic depuis les événements et qui s'occupent de la population. Puis avec eux, on a communiqué à la population ce qu'on allait faire. Et tout du long, on a suivi un processus avec eux là pour qu'ils soient qu'il y ait une longueur d'avance sur ce qu'on allait faire. Puis Alexis et Sylvain, Sylvain Guy, l'auteur, ainsi qu'Anton, ont parlé à des individus, à des gens de la population pendant des soirs et des soirs. Là, c'était en pleine pandémie, donc ça s'y prêtait. On a fait des sondages pour avoir l'autorisation.
Puis il y a eu un visionnement là-bas aussi.
Et puis on a dit qu'on irait jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on irait leur présenter. Quand on a sollicité un diffuseur pour faire la série, on a dit au diffuseur, il faut faire absolument très attention à la population et on vous demanderait d'aller diffuser un épisode de la série là-bas avant toute chose, parce que ce sont eux les principaux concernés.
Et ça s'est passé comment, le visionnement?
Écoutez, on était bien fébriles, Alexis, moi et Sylvain, on n'en venait pas large. C'est une grosse responsabilité, ouais. Puis en même temps, oui, c'est une fiction, puis oui, est-ce qu'elle sera à la hauteur de ce que les gens ont vécu? Probablement pas. Au-delà de ça, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait, puis avec ce que les gens nous ont confié, puis ça s'est bien passé. On s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y avait une période de questions-réponses quand on était là, puis que les gens continuaient, avaient encore le besoin de témoigner de ce qui s'était passé. Il y avait des témoignages qui ressortaient ce soir-là. Et les gens de la proximité nous ont dit, pour nous, c'est un outil fabuleux pour continuer de faire notre travail, parce qu'il y a des gens dans la communauté qui ont toujours pas parlé, qui ont toujours pas échangé. Il y en a d'autres qui ont besoin de renouer des liens, puis je pense que ça peut-être faire œuvre utile dans ce sens.
Mais même si c'est pas un documentaire au sens
non,
pur, là, mais ça donne quand même, j'ai vu le premier épisode,
ouais.
Ça donne quand même le ton. On peut dire, jusqu'à un certain point, voir ce que les gens ont vécu, comment ils se sentent aussi.
Oui, et les personnages qu'on peut reconnaître.
Ben, en fait, ouais. C'est un amalgame, mais ce que je veux dire, c'est que ça donne, quand il y a un événement historique comme ça, on peut pas, pendant des années, passer à côté. Puis quand on le fait bien comme vous l'avez fait, documenté, ça nous replonge. Puis souvent, les gens qui vivent ça vont blâmer les médias en général de dire, vous êtes passés, vous êtes pas revenus, vous êtes pas occupés de nous, on avait des choses à dire, puis pourquoi... Là, ils ont quand même... Puis je voyais les commentaires après la séance. La plupart des gens étaient, j'allais dire, satisfaits ou en tout cas étaient rassurés. Je vais dire ça comme ça, je pense.
Oui, je pense que c'était le but de l'exercice. Il y a des gens pour qui les plaies sont encore trop vives et qui ne pourront pas regarder la série. C'est tout à fait normal. Le contraire serait malsain. Quelque chose de se peut pas. Mais je pense qu'au-delà de ça, oui, ça fait ce travail-là. Et puis, en même temps, ce que les gens de Mégantic ont fait en déposant ces témoignages-là avec Sylvain et puis nous, c'est un geste politique, en quelque part. Parce que ce qu'il dit, c'est ne nous oubliez pas.
Surtout que ce n'est pas encore réglé.
Ouais, c'est exactement la chose.
Alors,
pour
là.
Ceux qui disent qu'il est peut-être trop tôt, peut-être que... Je veux dire, il y a eu le livre d'Anne-Marie Saint-Cerny, il y a eu la bande dessinée de Daniel Quesnel et d'Anne-Marie, il y aura aussi le documentaire de Philippe Falardeau et nous, ce sont des gestes qui disent aux différents paliers de gouvernement, occupez-vous de ces gens-là, occupez-vous de cette situation-là, parce que contrairement à bien d'autres d'événements tragiques. Celui-là, ce qui est épouvantable, c'est qu'il était entièrement évitable.
Ça a été démontré assez clairement.
Oui, et puis ça le sera encore, mais par d'autres gens que nous, c'est sûr, mais c'était évitable. Alors la souffrance de ces gens-là, c'est d'une injustice incroyable.
Sophie Lorrain, merci beaucoup d'être venue ce matin.
Merci de m'avoir accueilli.
Disponible à partir de demain sur Club Illico, donc la série Mégantic.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.